بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue l'explication des hadiths du chapitre الترهيب من مساوي الأخلاق, c'est-à-dire la mise en garde contre les mauvais comportements. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم. Le hadith dit ici, donc c'est un hadith qudsi, où Allah dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendu interdite entre vous, donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. C'est dans Sahih Muslim. Donc il dit le shir dans l'explication. هذا الحديث قطعة من حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه غيره. قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به جثى على ركبتيه. L'imam Ahmed a dit à propos de ce hadith, qui est en fait ici le morceau d'un hadith qui est dans Sahih Muslim. L'imam Ahmed dit, c'est le meilleur hadith des gens du Sham, le plus noble hadith que racontent les gens du Sham. Et Abu Idris al-Khawlani, un muhaddith, quand il le racontait, il tombait sur ses genoux. C'est-à-dire, il se mettait sur ses genoux pour raconter ce hadith. قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يعني أنه منعه تعالى عن على نفسه فلا يظلم عباده. Donc quand Allah dit je me suis interdit l'injustice, c'est-à-dire qu'il se l'est interdite envers lui-même et il ne fait pas d'injustice envers ses créatures. قال تعالى وما أنا بظلام للعبيد. Allah dit je ne suis pas injuste envers les serviteurs. وقال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين. Et dans l'autre verset il dit et Allah ne veut pas d'injustice pour les mondes. وقال تعالى وما ربك بظلام للعبيد. Et dans un autre verset il dit et ton Seigneur n'est pas injuste envers les créatures. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. قال النووي رحمه الله تقدس وتنزه عن الظلم فالظلم وضع الشيء في غير موضعه وله الحكمة التامة من أن لا يجري الأمور إلا في مجاريها من أن لا يجري الأمور إلا في مجاريها وفق مصالحها. النووي رحمه الله dit Allah est élevé et purifié de toute injustice. Et l'injustice, الظلم, c'est le fait de mettre une chose dans autre que l'endroit où elle doit être. Et Allah, or Allah, lui, il a la sagesse complète et il fait marcher et fonctionner les choses selon ce qu'elles doivent être et là où elles doivent être. Et selon al-masalih, c'est-à-dire selon la meilleure des sagesses. قَوْلُهُ جَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. Et quand il a dit, je l'ai rendu interdite entre vous, donc ne soyez pas injustes. قَالَ ابْنُ رَجَبْ حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَىٰ عِبَادِهِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَتَظَالَمُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ فَحَرَامٌ عَلَىٰ كُلِّ عَبْدٍ أَنْ يَظْلَمَ غَيْرَهُ. Donc ça c'est clair, ici il dit Ibn Rajab rahimahullah qu'il a interdit l'injustice et donc il leur a interdit d'être injustes les uns envers les autres. Or l'injustice est de deux sortes. Ahaduhuma dhulmun nafs. La première c'est l'injustice envers soi-même. Wa a'zamuhu ash-shirk. Et la plus grande de ces injustices c'est l'associationnisme ou le polythéisme, ash-shirk. Inna ash-shirka la dhulmun azim. Comme il est dit dans le verset, certes, le polythéisme ou l'associationnisme est une grande injustice. فَالْمُشْرِكُ جَعَلَ الْمَخْلُوقَ فِي مَنْزِلَةِ الْخَالِقِ وَبِهَذَا فَقَدْ وَضَعَ الْأَشْيَاءَ فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا. Celui qui fait le shirk, il a mis la créature à la place ou à la position du créateur. Et donc, il a mis les choses en dehors de leur place. وَأَكْثَرَ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ وَعِيدًا لِلظَّالِمِينَ إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart des menaces qui concernent al-Zalimin, c'est-à-dire les injustes dans le Coran, ce qui est voulu par là, ce sont les associateurs. Puis viennent dans la gravité, après le shirk, les péchés dans leur diversité, et qui contenaient les grands péchés et les péchés mineurs. Al-Thani, la deuxième sorte d'injustice, dhulmul 'abdi ghayrahu, c'est le fait que la personne soit injuste envers autrui. Yarhamukallah. وهو المذكور في الحديث et c'est ça qui est cité dans ce hadith. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا fi baladikum hadha, rawah al-Bukhari wa Muslim. Et le prophète a dit dans son discours au pèlerinage d'adieu, certes vos sangs, vos biens et vos honneurs vous sont sacrés comme votre jour-ci est sacré dans ce mois-ci, dans ce pays-ci. Et ça c'est dans les deux sahih. الحديث صريح بتحريم الظلم بين الناس في كل حق من حقوقهم حتى القليل منها. Le hadith donc est clair sur l'interdiction de la justice entre les gens, même dans ce qui est peu. فقد قال صلى الله عليه وسلم وإن كان عودا من أراك رواه مسلم. À tel point que le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit la justice en disant même si ça concerne un bâton du bois d'Arak. C'est le bâton avec lequel habituellement on fait le siwak. فالواجب البراءة من حقوق الخلق. Donc il faut se dégager des droits des créatures d'Allah. ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها قبل أن تؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. Et il est dit donc dans صحيح البخاري que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui a commis une injustice envers son frère, qu'il s'en dégage avant qu'on ne prenne de ses bonnes actions pour les donner à son frère. Et s'il n'a pas de bonnes actions, on prendra des péchés de son frère et on les jettera sur lui, c'est-à-dire c'est lui qui les portera. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala: "Atadruna mal ghiba?" Qalu: "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala: "Dhikruka akhaka bima yakrah." قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم. Dans ce hadith qui est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est al-ghiba, c'est-à-dire la médisance? Et les sahabas ont dit: Allah et son messager savent mieux. Et il a répondu: c'est le fait que tu mentionnes ton frère en disant ce qu'il déteste. Et ils ont dit au prophète: vois-tu si effectivement il y a dans mon frère ce que je dis, c'est-à-dire si ce que je dis sur lui est vrai. Il a répondu: si ce que tu dis est vrai, irtabtahu, c'est-à-dire tu auras médit de lui, et si c'est faux, bahattahu, tu l'auras calomnié, tu auras menti sur lui. Donc il dit dans l'explication: al-riba bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi annaha dhikruka akhaka al-muslimi bima yakrah sawa'un akana fi khalqihi aw khuluqihi. Donc al-ghiba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré ce qu'elle était en disant que c'est le fait de mentionner ton frère musulman en disant quelque chose qu'il déteste, que ce soit dans son comportement ou dans son aspect, c'est-à-dire sa création, comment il est physiquement. فأي كلمة تقولها فيه مما يكره أن تقال فيه فهذه غيبة سواء أكانت كبيرة أو صغيرة. Et aussi que cette parole soit grande ou petite. ولكن يتفاوت الإثم بقدر ما قيل في الشخص. Mais le péché de la médisance a différents degrés selon la gravité de ce qui a été dit sur la personne. حتى ولو كانت فيه تلك الصفة. Et ça c'est vrai même si effectivement cette qualité que tu as mentionnée, ou plutôt ce défaut, se trouve chez la personne. أما إذا لم تكن الصفة التي ذكرت فيه فقد جمعت بين أمرين الغيبة والبهتان والكذب على الإنسان بما ليس فيه. Et si en plus cet attribut et ce défaut que tu lui as attribué n'est pas présent chez lui, donc là tu auras regroupé deux péchés. Al-riba, la médisance, et aussi la calomnie, qui est le fait de mentir sur la personne. قال النووي رحمه الله: الغيبة ذكر المرء ما يكره سواء أكان في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو خادمه أو حركته أو طلاقته أو عبوسه أو غير ذلك مما يتعلق به ذكر سوء وذكر ذلك باللفظ أو الرمز أو الإشارة. النووي dit رحمه الله: la médisance c'est que tu mentionnes une personne en disant quelque chose qu'elle déteste, que ce soit dans son corps, c'est-à-dire à propos de son corps ou sa religion ou ses affaires d'ici-bas ou sa propre personne ou son comportement ou son argent ou ses enfants ou sa femme ou son serviteur, ou ses gestes, ou le fait qu'il soit détendu, ou le fait qu'il soit renfrogné, tout ça donc, ça rentre dans al-riba. Et ça peut être fait, quand on le mentionne par des mots, mais aussi par des signes, et par des insinuations. وقال أيضا: ومن ذلك التعريض في كلام المصنفين كقولهم من يدعي العلم. Et ça, il dit, on le trouve aussi dans la parole de ceux qui écrivent des livres et qui disent, par exemple, en parlant de quelqu'un, ils disent quelqu'un qui prétend avoir de la science. C'est-à-dire, ils parlent de quelqu'un à qui ils veulent répliquer, ils disent quelqu'un qui prétend avoir de la science. C'est-à-dire, ils ne disent pas directement c'est un ignorant. Ils disent quelqu'un qui prétend avoir de la science. Ou alors, il dit wa ba'du man yunsabu ila salah. Ou alors le fait de dire par exemple quelqu'un qui est assimilé à la piété, donc c'est à dire tu assimiles par là qu'il n'est pas pieux, et de ce genre d'expression. Ou alors le fait que quand tu mentionnes quelqu'un tu dis Allah yu'afina, qu'Allah nous préserve, c'est à dire tu dis pas de mal sur la personne, mais hein, quand on dit son nom tu dis qu'Allah nous préserve, ou qu'Allah nous pardonne, ou qu'Allah nous donne la protection. Donc ce sont des insinuations. Par exemple, toi tu mentionnes Farid ou Mohamed, et la personne qui est en face de toi elle dit qu'Allah nous préserve. Donc il ne dit pas Kamel ou Mohamed ou Farid ou Rachid, il est comme ça, mais il fait une insinuation. Donc ça rentre dans la médisance. Donc al-Nawawi, tout ça rentre dans la médisance. قوله ذكرك أخاك قال ابن المنذر في الحديث دليل على عدم غيبة اليهود والنصراني وسائر أهل الملل ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا غيبة له. ابن المنذر dit, quand il a dit le fait que tu mentionnes ton frère, ça prouve qu'il n'y a pas de médisance pour les gens des autres religions ou pour celui qui est à la base musulman mais que son innovation a sorti de l'islam. Donc il n'y a pas de médisance à son sujet, c'est-à-dire on peut parler sur lui. قال القرطبي أجمع العلماء على أن الغيبة من كبائر الذنوب واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. القرطبي رحمه الله dit les savants donc sont tous d'accord sur le fait que la médisance fait partie des grands péchés, c'est-à-dire des péchés majeurs, et la preuve à ça c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم vos sangs, vos biens et vos honneurs vous sont interdits ou vous sont sacrés. Donc Al-Qurtubi ici, je ne sais pas s'il veut dire celui qui a écrit l'explication de Sahih Muslim ou celui qui a fait le tafsir du Coran. Istathna'u al-ulama'u min al-ghibati sittata umurin ja'iza li'annaha lam yuqsad biha al-ghiba wa innama qasada biha amran wa innama qusida biha amran akhar la yatahaqqaqu illa biha. Donc les ulama ont accepté de la médisance 6 choses qui sont permises. C'est-à-dire, dans la forme, elles sont de la médisance, mais elles ne sont pas comprises dans la médisance interdite. Parce que ce qui est voulu par elles, c'est pas la médisance, mais c'est autre chose. Autre chose qu'on ne peut réaliser qu'en parlant sur la personne. Al-awwal at-tadhallum. La première, c'est at-tadhallum, c'est-à-dire se plaindre d'une injustice à quelqu'un, pour qu'il te défende. Al-thani al-isti'anatu ala taghyir al-munkar. La deuxième, c'est de chercher une aide pour changer quelque chose de blâmable. Par exemple, tu vas voir quelqu'un. Toi, tu ne peux pas changer le blâmable, mais quelqu'un il peut le faire. Donc tu vas le voir et tu lui dis un tel fait ça. C'est pas pour la médisance, mais c'est pour qu'il le fasse arrêter. La troisième, c'est la demande de fatwa. Donc quand il demande un décret, la personne elle peut dire mon voisin ou ma femme ou il s'est passé telle situation. La quatrième, c'est le fait de mettre en garde les musulmans pour qu'ils ne soient pas trompés par une personne. الخامس المجاهر بالفسق والبدعة. La cinquième, c'est celui qui extériorise sa désobéissance envers Allah ou qui extériorise l'innovation. السادس التعريف بالشخص كالأعمى والأعرج. Ou alors dans le sens de faire connaître une personne pour pouvoir désigner, par exemple tu dis l'aveugle ou le boiteux. C'est pas pour le critiquer, mais c'est parce que c'est pour que la personne le reconnaisse et sache de qui tu parles. Donc le hadith suivant. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم. Dans ce hadith qui est dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا تحاسدوا, c'est-à-dire ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas les uns les autres. La wala tanajashu. Tanajashu, il dit dans l'explication, huwa ziyadatu fi sil'ati biduni qasdi shira'iha. C'est-à-dire que tu rajoutes un prix dans la, dans une, tu surenchères dans une marchandise alors que tu veux pas l'acheter en fait. Imma li naf'il ba'i', pour profiter au vendeur, donc c'est-à-dire tu peux avoir une complicité envers lui, aw li madarrati al-mushtari, ou alors pour nuire à celui qui veut acheter puisque tu fais augmenter le prix, aw al-abath, ou alors simplement comme ça pour t'amuser. Wala tabaghadu, et ne vous détestez pas les uns des autres. Wala tadabaru, et ne vous détournez pas les uns des autres. Wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd, et que vous ne fassiez pas de commerce les uns sur le commerce des autres. C'est-à-dire, comme il va l'expliquer après, une fois que j'ai accompli un acte commercial avec quelqu'un, tu viens pas derrière acheter la même marchandise en proposant un meilleur prix une fois que le pacte il a été fait, le pacte de commerce. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, et soyez des serviteurs d'Allah, frères. الْمُسْلِمُ أَخُ الْمُسْلِمِ, le musulman est le frère du musulman. لَا يَظْلِمُهُ, il n'est pas injuste envers lui. وَلَا يَخْذُلُهُ, et يَخْذُلُهُ, c'est-à-dire il ne délaisse pas quand il est opprimé, il ne laisse pas sans le secourir. وَلَا يَحْقِرُهُ, il ne le méprise pas. التَّقْوَهَا هُنَا, ensuite il a dit la piété est ici, en montrant sa poitrine, il l'a dit trois fois. Et il suffit à une personne comme mal qu'il méprise son frère musulman. Et le musulman tout entier est sacré pour le musulman, son sang, son bien, enfin ses biens et son honneur. Donc là dans l'explication, Cheikh dit « Hada hadithun azimun fihi jumlatu min adab l'islam al-karima allati min sha'niha an yatahabbaba al-muslimu li akhihi al-muslim hatta tuwahhada kalimatu al-muslimin wa tujma'u sufufuhum wa yulammu shamluhum wa yakunu ummatan wahida wa ikhwatan muslimin. » Donc ça c'est un grand hadith qui montre différentes politesses et différents comportements de l'islam, qui appelle à ce que le musulman se fasse aimer à son frère musulman, pour que l'unité se fasse chez les musulmans et que leur rang soit unique et qu'ainsi ils se renforcent et qu'ils soient des frères et que la communauté soit unie. Awwaluha, donc le premier de ces comportements, la tahasadu, ne vous enviez pas. يعني لا يحسد بعضكم بعضا والحسد مركوز في طباع البشر فالإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. Il dit la jalousie, donc la première c'est ne vous jalousez pas, ne vous enviez pas, et la jalousie c'est quelque chose qui est ancré dans la nature de l'être humain. L'être humain il n'aime pas voir quelqu'un du même genre que lui, c'est-à-dire un humain, le dépasser dans les choses du bien. والمنهي عنه هنا منه هو أن يتمنى زوال نعمة العبد عنه سواء تمناها أن تنتقل إليه أو تمنى مجرد زوالها عن المحسود. Et ce qui est interdit dans l'envie, c'est qu'il souhaite que le bienfait qui est chez la personne disparaisse. Soit il souhaite que ce bienfait disparaisse pour venir dans ses mains à lui, ou alors tout simplement il veut que ce bienfait disparaisse de la personne.
وهذا خلق ذميم نهى عنه الشارع الحكيم بما يسببه من الشرور في الدنيا ولأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.
Et donc c'est un comportement blâmable que la législation qui est sage a interdite. Et il cause beaucoup de maux dans la vie d'ici-bas et il mange les bonnes actions comme le feu mange le bois.
ثانيها, le deuxième comportement, لا تناجشوا. النجشوا معناه أن يزيد الإنسان في السلعة لا لقصد شرائها وإنما لقصد الإضرار بالمشتري برفع ثمنها عليه أو لنفع البائع بزيادة الثمن له وهو حرام.
Ensuite il a dit لا تناجشوا, c'est-à-dire ne pratiquez pas envers vous-même un najash. Il dit c'est le fait d'augmenter dans le prix d'une marchandise, donc de surenchérir en faisant augmenter le prix d'une marchandise, soit pour profiter au vendeur, donc quand il y a une complicité, ou soit pour faire du mal à l'acheteur. Et il dit, c'est haram, c'est interdit. Et quand on s'assure, c'est-à-dire il est vérifié que une des personnes présentes a fait ça, celui qui aura acheté au final a le droit de revenir sur son acte d'achat et de récupérer son argent.
لِمَعْنَا لَهُ مِنَ الْخَدِيعَ وَالْمَكْرِ وَزِيَادَةِ الثَّمَنِ. Parce qu'il a été touché par une trahison et par des ruses et par un surplus dans le prix. Donc il a subi une trahison, il a le droit de récupérer son argent.
ثَالِثُهَا لَا تَبَارَضُ. La troisième, c'est ne vous détestez pas.
نَهَا عَنِ التَّبَارُضِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ إِخْوَةً قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّوا أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
La deuxième, c'est ne vous détestez pas. Donc les musulmans, Allah les a fait comme des frères, ils ne doivent pas se détester. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih Muslim, par celui dans la main de qui est mon âme, donc c'est-à-dire par Allah, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi, et vous n'aurez pas la foi tant que vous vous entraînerez pas. Vous ne vous entraînerez pas, pardon. C'est un peu difficile. Vous indiquerai-je une chose qui, si vous la faites, vous vous entraînerez. Et il a dit, répondez à salam, répondez le salut entre vous.
ولهذا المعنى حرم الله تعالى المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة والبغضاء ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس.
Et c'est pour cette signification et ce but, c'est-à-dire l'amour entre les musulmans, qu'Allah interdit de propager les mensonges des gens et les paroles des gens les uns sur les autres.
النميمة.
Parce que ça a pour conséquence l'inimité et la haine des gens les uns envers les autres. Et par contre, la religion a permis le mensonge quand il est fait pour réconcilier des musulmans. Et il ne rentre pas dans cette interdiction, le fait de détester pour Allah, qui au contraire fait partie des grands points de la foi et des choses par lesquelles on complète notre foi, de détester pour Allah.
وعن ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي أهله شيئا رواه ابن جرير.
الطبري لا رابورتي ابن جرير الطبري cette parole d'عبد الله بن عباس رضي الله عنهما qui dit: celui qui aime pour Allah et qui déteste pour Allah, et qui s'allie pour Allah et qui prend des ennemis pour Allah, alors sachez que l'alliance avec Allah, al-wilaya, le fait d'être un ami d'Allah, ne s'atteint que par cela. Et la personne ne trouvera pas le goût de la foi, même s'il prie beaucoup et il jeûne beaucoup, tant qu'il ne sera pas de cette façon. Et la plupart de la fraternité entre les gens maintenant tourne autour de la vie d'ici-bas, et ça ne sert à rien à ces gens-là. C'est-à-dire, il dit, Ibn Abbas, il se plaint que les gens, ils se lient les uns les autres, ils s'entraînent autour de choses d'ici-bas. Et ça ne leur servira pas.
رابعها لا تدابروا. La quatrième, c'est ne vous tournez pas le dos, ne vous détournez pas les uns des autres.
مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه. فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
Et dans les deux صحيح, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il n'est pas licite à un musulman d'éviter son frère au-delà de trois jours, et le meilleur des deux est celui qui dira le salut en premier.
فالهجر فوق ثلاث محرم لا يجوز.
Donc le fait d'éviter son frère, al-hajr, plus de trois jours est interdit.
ويحصل إنهاء الهجر بالسلام.
Et pour mettre fin à une période où tu évites ton frère, al-hajr, c'est par salam. C'est le salam qui fait que tu n'es plus considéré comme étant quelqu'un qui évite ton frère.
وأما الهجر لأجل الدين فتجوز زيادة من غير تحديد حتى يزول المانع من الهجر.
Quant à le fait d'éviter quelqu'un pour la religion, donc pas pour des affaires personnelles, là on peut le faire au-delà de trois jours, sans limite, tant que ce qui est voulu disparaisse.
Et la preuve à cela, c'est l'histoire des trois personnes qui s'étaient attardées de la bataille de Tabouk.
Et donc ils n'étaient pas partis avec le prophète, alors qu'ils faisaient partie des compagnons connus pour leur piété, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas parlé,
et interdit aux gens et même à leur propre famille de ne pas leur parler pendant 50 jours. Donc c'est plus que 3 jours.
وَيُبَاحُ عَلَى أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُغَلَّظَةِ وَالدُّعَاةِ إِلَى الْأَهْوَاءِ وَالْمَبَادِئِ الْهَدَّامَةِ وَأَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الْمُضَلِّلَةِ.
Et il est permis donc d'éviter les gens des innovations graves et les gens qui appellent aux passions et qui appellent à des principes destructeurs et les gens qui suivent des mazahib, c'est-à-dire des façons de penser qui égarent les gens.
خامسها, la cinquième, وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضُ,
que l'un d'entre vous ne fasse pas une vente sur la vente de son frère.
قَالَ الْفُقَهَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَ عَلَيْهِ شَيْئًا فينزل للمشتري سلعته بأرخص ليشتريها ويفسخ بيع الأول وهذا إذا كان في خيار المجلس أو خيار الشرط وكان على الصحيح يشمل فيما إذا تم البيع بينهما ولم يبقى خيار وذلك لئلا يحتال المشتري أو البائع على فسخ العقد ويكون في نفسه عداوة وبغض للعاقد معه.
Donc là, je vous avoue que j'ai pas compris toute l'explication du cheikh. Mais ce que je connaissais personnellement de l'explication du hadith, c'est que, donc ça correspond à ce que j'ai compris en tout cas ici, c'est que quand une personne, un musulman, il fait un acte de commerce avec quelqu'un, donc il a pris la marchandise, ou en tout cas ils se sont mis d'accord, et il n'y a plus de khiya, c'est-à-dire on ne peut plus choisir de reprendre son argent ou reprendre sa marchandise, par exemple dans le fait qu'ils se soient séparés. Là, il est interdit de venir au vendeur et de dire ben moi je te l'achète pour plus que ça, ou alors au vendeur de dire à un autre acheteur moi je préfère te le vendre à toi, et de chercher donc à récupérer sa marchandise et de rendre l'argent à l'acheteur pour revendre la marchandise à quelqu'un d'autre. Donc ça c'est interdit. Donc ça c'est après que le commerce soit complété, c'est pas avant qu'il soit complété. C'est à dire par exemple une personne elle dirait je vends ma voiture 1000 euros. Il dit, ben moi, je voudrais bien te la prendre. Le vendeur, il lui a pas dit, je te la vends. Donc là, il n'y a pas de mal à ce qu'une personne, elle dit, non, moi, je te la prends pour 1002. Il surenchère. Là, il n'y a pas de mal, si vraiment il veut acheter. Ce qui est interdit, c'est s'il dit, voilà, je vends ma voiture pour 1000 euros. La personne, elle dit, je te l'achète. Et lui, il dit, ça, c'est bon, je te la vends. C'est conclu entre nous. Et ils se séparent. Et là, quelqu'un, il vient l'attraper, il lui dit, moi, je la prends pour 1200 euros. Donc le commerce est conclu et lui il veut faire un commerce sur le commerce de son frère, c'est ça? Faire un commerce sur le commerce de son frère. C'est comme dans le khidba, par exemple, vous connaissez le hadith qui dit qu'il ne faut pas faire une khidba, c'est-à-dire une demande de mariage au-dessus de la demande de son frère. C'est-à-dire quand la demande, c'est pareil, elle est complétée. Il a demandé la fille et les parents ils ont dit oui, on va faire le mariage, donc ça y est c'est fait. Là, il ne t'appartient pas de venir encore pour demander la fille. Alors que si quelqu'un il demande au père une fille et le père il a rien dit, il dit je vais réfléchir, il n'y a rien qui empêche à un autre de venir demander une deuxième fois parce qu'il n'y a rien qui a été conclu entre eux. Donc il faut comprendre, ça c'est quand l'acte il est fini, il est scellé.
قوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض قد تكاثر النهي عن ذلك ففي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع المؤمن على بيع أخيه المؤمن وفي رواية لمسلم لا يسمو على سوم أخيه وفي البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه هذا دليل على اختصاص ذلك بالمسلم دون الكافر وهو مذهب أحمد والأوزاعي.
Donc là il a cité trois autres hadiths qui répètent exactement la même phrase du hadith, c'est-à-dire qui ont le même sens, qui sont dans les deux sahih. Et le cheikh dit, ça montre que ça c'est interdit vis-à-vis du musulman, pas vis-à-vis du kafir. Et ça c'est ce qu'a dit l'imam Ahmed et l'imam Al-Awza'i.
وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَامٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَأَصَحُ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ.
Et beaucoup de savants du fiqh, de la jurisprudence, ont dit que cette interdiction englobe aussi les non-musulmans. C'est-à-dire c'est pas seulement pour le musulman, mais il est aussi interdit de faire ça à un non-musulman. Donc là, il n'a pas dit qui, il a dit beaucoup des gens du fiqh, des savants du fiqh. Et il dit aussi, le plus authentique, c'est que cette interdiction, elle indique un tahrim, c'est-à-dire une interdiction stricte. Ce n'est pas simplement déconseillé, mais c'est haram.
ثانيا وكونوا عبادا إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا. La sixième, donc là il a mis deux, normalement c'est six. Donc la sixième c'est soyez des frères, des serviteurs d'Allah, frères. ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم. Ici le prophète il a mentionné cette phrase comme une justification des phrases précédentes. فإن في هذه الجملة اللطيفة إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضهم على بيع بعض صاروا إخوة متحابين متآلفين. C'est comme si ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il insinuait que si les musulmans délaissent le fait de se détourner les uns des autres, de se détester, de surenchérir les uns sur les autres, de faire des actes de commerce les uns sur les actes des autres, alors ils vont devenir des frères qui s'aiment les uns les autres. فيه الأمر باكتساب الأشياء التي تجلب المحبة والمودة والألفة. Et ce hadith aussi nous montre qu'il est ordonné de faire les causes qui ramènent l'amour et l'entente entre les musulmans. من رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة وعيادة المريض ونحو ذلك من الحقوق التي سنها الإسلام بين المسلمين. Comme le fait de répondre au salam, le fait de dire يرحمك الله à celui qui éternue, le fait de répondre aux invitations, le fait de visiter les malades, et tous les autres droits que l'islam a instaurés entre les musulmans. لتمكن المودة والألفة بينهم وتوحد كلمتهم. Pour que soit imposé entre eux l'entente et l'amour et que leurs paroles soient unifiées. قوله المسلم أخو المسلم. Ensuite il a dit صلى الله عليه وسلم le musulman est le frère du musulman. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. Alors Allah dit les musulmans ne sont que des frères. فالأخوة الإسلامية هي أوثق رابطة وأقوى صلة بين المسلم وأخيه المسلم وهي تقتضي حقوقا بينهما إن قام بها نمت وزكت وإلا ضعفت وذوت حتى تموت فعلى المسلمين مراعاتها وإحياها بالقيام بالحقوق والصلات. Il dit la fraternité islamique c'est le plus grand lien qu'il y a entre le musulman et son frère, et elle implique des droits et des devoirs entre les deux. Si il respecte ses droits et ses devoirs, cette fraternité et ce lien entre eux il va progresser, et si il respecte pas ses droits ou alors le lien entre eux faiblit, alors cette fraternité va faiblir jusqu'à ce qu'elle meure. Et donc les musulmans, il leur est imposé de respecter les droits et les devoirs les uns des autres, les uns envers les autres, et de faire vivre ces droits et ces liens qu'ils ont les uns envers les autres. قَوْلُهُ لَا يَظْلِمُهُ. Ensuite il a dit, il n'est pas injuste envers lui, c'est-à-dire le musulman n'est pas injuste envers son frère. هَذَا أَقَلُّ مَا يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ. Il dit ça, c'est le minimum qu'il est imposé aux musulmans envers son frère, c'est qu'au moins il ne soit pas injuste envers lui. وَالظُّلْمُ يَكُونُ فِي النَّفْسِ وَالْعِرْضِ وَالْمَالِ. Et l'injustice, elle se fait dans les biens, dans nefs, c'est-à-dire la personne en elle-même, et dans son honneur. فَعَلَى الْمُسْلِمِ تَجَنُّبُ غَلَطُ أَخِيهِ. تَجَنُّبُ غَلَطِ أَخِيهِ. فَالْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامُ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. Donc le musulman s'éloigne du fait de commettre des fautes envers son frère, car le musulman est sacré pour le musulman. Ses biens sont sacrés, son sang est sacré et son honneur est sacré. قَوْلُهُ لَا يَخْذُلُهُ. Ensuite il a dit لَا يَخْذُلُهُ. الْخُذْلَانُ هُوَ أَنْ يُظْلَمَ الْمُسْلِمُ وَتَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَلَا تَفْعَلْ بَلْ تَتَخَلَّى عَنْهُ. الْخُذْلَانُ, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que un musulman il est opprimé et toi tu peux le secourir et tu ne le fais pas. Et au contraire, tu t'écartes. C'est ça le khuzlan. فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَأْمُورٌ بِنَصْرِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. Et le musulman est ordonné de secourir son frère musulman. سَوَاءٌ أَكَانَ ظَالِمًا فَتَنْصُرُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ أَوْ مَظْلُومًا فَتَمْنِعُ الظُّلْمَ عَنْهُ. Et tu dois le secourir qu'il soit injuste ou opprimé. S'il est injuste, tu le secours en contre lui-même, en l'empêchant de faire son injustice. Et s'il est opprimé, eh bien, tu empêches qu'on soit injuste envers lui. فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالْ مَا مِنْ مَرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ مْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَسُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته.
Ici, c'est un hadith qui est dans les sunnans d'Abi Daoud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas une personne musulmane qui délaisse son frère, yakhzuluhu, c'est-à-dire il ne le secourt pas, alors que son aspect sacré, on transgresse vis-à-vis de l'aspect sacré de ce musulman, ou alors on touche à son honneur. Et donc si un musulman ne le secourt pas, Allah va lui faire la même chose dans un moment où il aimerait qu'on le secourt. Et il n'est pas un musulman qui secourt son frère quand on touche à son honneur ou quand on touche à son aspect sacré sans qu'Allah ne le secourt quand il est à un moment où il aimera qu'on le secourt. Ensuite il a dit, et il ne le méprise pas. Donc le fait qu'un musulman méprise son frère, ça vient de l'orgueil.
فقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس.
Et dans le hadith de Sahih Muslim, il est dit du prophète صلى الله عليه وسلم, l'orgueil c'est de cacher la vérité ou de refuser la vérité et de mépriser les gens.
فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص.
Donc celui qui est orgueilleux, il regarde sa propre personne avec l'œil de la perfection, c'est-à-dire il se voit comme quelqu'un de parfait. Et il regarde autrui avec l'œil de la diminution, c'est-à-dire il voit que les gens ils sont rien, ils sont moins que lui.
فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحدهم الحق إذا ردوه عليه.
Donc il méprise les gens et il voit qu'ils ne méritent pas qu'ils remplissent leurs droits et qu'ils respectent leurs droits. Et que non plus qu'il n'accepte pas que si quelqu'un lui rend son droit, il l'accepte même pas de ces gens-là, parce qu'il voit qu'ils sont trop bas. Donc ce n'est pas des gens pour lui qui méritent les droits, qu'on respecte leurs droits.
قوله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاثا.
Ensuite il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la piété est ici, et il a montré sa poitrine trois fois.
فيه إشارة إلى أن أكرم الخلق عند الله من اتصف بالتقوى لا بالجاه والرياسة والمال.
Donc ça montre que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la plus noble des créatures d'Allah ou la plus noble personne auprès d'Allah, c'est celui qui est caractérisé par la piété, pas par une place ou par le fait d'être le chef ou par l'argent.
فربما من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدرا ممن له قدرة في الدنيا. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
Et il est possible que il se trouve une personne que les gens méprisent parce qu'il est faible et il n'a pas grand chose de la vie d'ici-bas, mais auprès d'Allah il a une grande place et il a une place plus grande que sa place ne l'est ici-bas. Et Allah dit, certes le plus noble d'entre vous auprès d'Allah c'est le plus pieux, c'est-à-dire le critère de la noblesse dans l'islam c'est ni la race ni l'ascendance, ni l'argent, ni le rang social, mais c'est la piété.
والتقوى أصلها في القلب فلا يطلع على حقيقتها إلا الله تعالى. فلا يطلع على حقيقتها إلا الله تعالى. وحينئذ فقد يكون ممن له صورة حسنة أو جاه أو رئاسة في الدنيا قلبه خال من التقوى ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبه ممروء من تقوى الله فيكون أكرم عند الله تعالى.
Et la base de la piété, taqwa, et de la foi, elle est dans le cœur. Donc personne ne peut découvrir cette réalité pour en ce qui concerne les gens si ce n'est Allah Azza wa Jal. Donc une personne, elle peut avoir une apparence bonne ou alors une grande place dans la société où il peut être le chef ici-bas, mais son cœur il est vide de toute piété. Et il peut se trouver une personne qui n'a rien de tout ça, pas d'argent, pas de place, etc. Et pourtant son cœur il est rempli de la piété, donc il sera plus noble. Auprès d'Allah il est plus noble que l'autre.
قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم.
Et Allah, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, certes Allah ne regarde pas vos formes ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Ça c'est dans Sahih Muslim.
قوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
Il y a beaucoup d'histoires parmi les salafs qui illustrent, et dans les hadiths, la phrase qu'on vient de dire. Notamment, par exemple, il mentionne l'histoire d'un serviteur, donc d'un esclave, qu'un des émirs de Omar il avait laissé sur une région. Et Omar, donc, quand il lui a dit, c'est qui que t'as mis pour te remplacer sur les gens comme commandeur et comme responsable, il a dit un tel. Et il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est un de nos esclaves. Et il a dit, comment tu laisses un esclave diriger les gens? Et l'homme, il lui a dit, il connaît le livre d'Allah. Et à l'époque, connaître le livre d'Allah, c'est pas juste le répéter par cœur. Et il connaît la science des héritages. Et c'est là qu'Omar a dit, إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. C'est-à-dire par ce Coran, par ce Coran, Allah élève des gens et il leur abaisse d'autres. Parce que cette personne c'est un esclave et il s'est retrouvé gouverneur des gens. Pourquoi? Par sa science et par sa piété. Ou alors aussi l'histoire de cette femme qui balayait la mosquée. Et c'était une femme à qui il faisait pas, c'est-à-dire il ne prêtait pas attention à cette femme. Et pourtant quand elle est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un beau jour il a dit, mais on ne voit plus cette femme. Et quand ils lui ont dit, elle est décédée, il s'est mis en colère et il a dit, pourquoi vous ne m'avez pas prévenu que j'aurais prié la prière de Janaza pour elle. Et après il est parti au cimetière et il a prié, donc après que les musulmans l'aient fait déjà, il a prié la prière de Janaza spécialement pour elle seule. Donc pour vous montrer que une personne elle peut être dans les yeux des gens méprisable, mais auprès d'Allah azza wa jal, elle est plus grande que les grands ici-bas.
قالوا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
Ensuite, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il suffit à un homme pour qu'il commette le mal, qu'il méprise son frère musulman.
يعني أن احتقار المسلم أخاه المسلم هو كفايته من الشر.
C'est-à-dire que quand un musulman il méprise un autre musulman, ça suffit comme mal. Il a commis assez de mal déjà.
فإنه إنما يحقره لتكبره عليه والكبر أعظم خصال الشر.
Parce qu'il ne va le mépriser que parce qu'il s'enorgueillit vis-à-vis de lui. Or l'orgueil est le plus grand mal et le plus grand défaut et la plus grande caractéristique du mal.
ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
Et dans صحيح مسلم le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, n'entre pas au paradis une personne qui a dans son cœur le poids d'un grain d'orgueil.
وقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
Et pour conclure, il a dit, le musulman tout entier est sacré ou est interdit aux musulmans, son bien, son sang et son honneur.
النصوص في تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم كثيرة صحيحة صريحة.
Donc les textes sur l'aspect sacré du musulman et de ses biens et de sa force et de son honneur, il y a beaucoup de textes sur ce sujet qui sont des textes clairs et des textes authentiques. Donc c'est fait partie des choses, il dit mimma ulima min ad-din bid-darura. C'est quoi qu'ils appellent ça veut dire ce qui est connu de façon évidente de la religion. Donc ça c'est une expression que vous pouvez retrouver dans les livres. Ça, ils disent ça, par exemple, l'obligation de la salat, mimma ulima min ad-dini bid-darura. L'obligation de la salat fait partie des choses qui sont connues de façon essentielle et de façon évidente dans la religion. Ou alors le tawhid, ou alors l'interdiction de la fornication, l'interdiction de l'alcool. Tout ça, ils disent, c'est des choses qui sont connues de façon évidente dans la religion. Et le fait qu'une chose, elle rentre dans ce domaine-là, a des conséquences. Notamment dans les questions du kufr et du takfir. Parce que si une personne renie une chose qui est connue de façon évidente dans la religion, alors elle tombe dans le kufr. Alors que si elle le renie, elle renie une chose qui n'est pas connue comme étant parmi les choses essentielles de la religion, elle ne tombera dans le kufr que si on lui a expliqué que ça fait partie de la religion. Alors que si elle vit dans un pays musulman et elle renie par exemple l'obligation de la salat ou l'interdiction de l'usure, elle tombe dans la mécréance automatiquement. Parce qu'on aura renié quelque chose qui est connu, on dit ma'alou min ad-din bid-darura. Quelque chose qui est connu de façon essentielle dans la religion et que personne n'est censé ignorer. Et n'est excusé à ce sujet que certaines catégories de personnes, comme le musulman converti, récemment converti, où la personne qui vit dans un pays loin des musulmans et où il n'y a pas de gens de science et où l'islam n'est pas connu, donc c'est, même ces choses qui sont normalement essentielles, il ne les connaît pas à cause du contexte. Ce genre de personnes, elles sortent de ce jugement et elles peuvent être excusées.
إنما المتعين على المسلم أن يحترز عن حقوق المسلمين.
Donc il est, donc c'est une obligation aux musulmans qu'il se préserve des droits des musulmans, c'est-à-dire qu'il soit loin de la transgression vis-à-vis des droits des musulmans.
فلا يعتدي عليها وإذا حصل بيده منها شيء فليردها إن قدر على ذلك وإلا استحل أهلها منها قبل أن يأتي يوم لا يستطيع أداءها إلا من أعماله إلا من أعماله الصالحة.
Et s'il arrive qu'il transgresse envers une personne, alors si c'est avec sa main, qu'il renvoie cette chose à la personne, c'est-à-dire s'il prend quelque chose injustement, qu'il la rende. Et s'il ne peut plus rendre ce qu'il a pris, ou il ne peut pas remplir la transgression qu'il a fait, qu'il demande le pardon et les excuses de la personne envers qui il a été injuste, avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus de façon de se rattraper, si ce n'est en donnant de ses bonnes actions.
فإذا نفذت أعماله وضع عليه من سيئات أصحاب الحقوق ونسأل الله العافية والمعافاة.
Et s'il n'a plus de bonnes actions à leur donner au jour du jugement, on prendra des péchés de ces gens qui avaient un droit sur lui et elles seront mises à son compte.
وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له.
Donc dans ce hadith, il a mentionné ici que Cheikh Al-Albani رحمه الله l'a authentifié, qu'il est dans Sunan al-Tirmidhi. Dans ce hadith, il dit, le compagnon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Oh Allah, écarte-moi des comportements blâmables et des actes blâmables et des passions blâmables et des mauvaises maladies. » Donc c'est une dua du prophète contre quatre choses. Donc dans l'explication, il dit ici
« Al-hadithu fihi da'awatun karimatun yaquluha sahibul khuluq al-azim sallallahu wa sallamuhu alayhi يزود بها نفسه الشريفة فإن الله تعالى وصفه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.
Donc dans ce hadith, il y a des nobles invocations du prophète صلى الله عليه وسلم, qui était l'homme doté du grand comportement, par lesquels il cherche à se préserver. Et Allah l'a décrit en disant, tu es certes sur un grand comportement, c'est-à-dire tu es certes doté d'un grand comportement, et son comportement c'était, comme Aïcha l'a dit, le Coran.
اللهم جنبني منكرات الأخلاق.
Il a dit صلى الله عليه وسلم Oh Allah, écarte-moi des comportements blâmables.
فالتجنب المباعدة ومنكرات الأخلاق هي الأخلاق الذميمة المستقبحة.
منكرات الأخلاق, c'est-à-dire les comportements blâmables et les comportements qui comportent de la laideur.
كالحسد والحقد والغش وقسوة القلب والبخل والجبن والهلع ونحو ذلك من الأخلاق المكروهة شرعا وعقلا.
Comme la jalousie, la haine, le fait d'être peureux, etc. Et tous ces comportements qui sont blâmés dans la religion et aussi dans la raison humaine.
وإذا تخلى المسلم عن هذه الأخلاق القبيحة وتحلى بعدها بالأخلاق المحمودة شرعا وعقلا من الحلم والعفو والجود والصبر والرحمة والشفقة وتحمل الأذى وقضاء الحوائج والبر والإحسان ونحوها فقد كمل خلقه.
Et si la personne, une fois qu'elle s'est dégagée de ce genre de comportement, elle s'embellit par les comportements qui sont loués dans la religion et aussi qui sont loués par la raison humaine, comme la clémence, le pardon, la générosité, la patience, la miséricorde, la pitié, le fait de supporter les nuisances des gens, le fait de combler les besoins des gens et la bienfaisance, alors là il aura complété et accompli son comportement.
ومنكرات الأخلاق تنشأ عن مرض القلب كما أن كرائم الأخلاق تنشأ عن صحته.
Et sachez que donc les comportements blâmables ne découlent que d'un cœur malade, alors que les comportements louables ne découlent que de la bonne santé du cœur.
أما منكرات الأعمال فهي كبائر الذنوب والإصرار على صغائرها.
Quant aux actions blâmables, quand il a dit « Protège-moi des actions blâmables », il dit « Ce sont les grands péchés » ou le fait de d'être perpétuellement sur les petits péchés, les péchés mineurs. « فالمسلم يتخلى عنها ويستعين بالله تعالى على ذلك ويتحلى بفضائل الأعمال من أداء الواجبات والحرص على المستحبات والتزود من الباقيات الصالحات فإذا فعل ذلك كمل إيمانه. » Donc le musulman doit se dégager de ce genre de comportement en demandant l'aide d'Allah Azzawajal et ensuite s'embellir par les bons comportements, comme le fait d'accomplir les obligations, le fait d'être assidu aux choses qui ne sont pas obligatoires mais juste recommandées, et le fait de préparer des bonnes actions pour sa vie future. Et quand il fait ça, il aura complété sa foi. أما الأهواء فهي الشهوات المهلكات من ارتكاب المعاصي والإقدام على الآثام التي تهواها النفوس ولكن في هذا الهوى والمشتهى هلاكها. Et الأهواء, quand il a dit protège-moi des mauvaises passions, ce sont les désirs qui mènent la personne à sa perte, comme le fait de commettre les péchés que les âmes ont envie de pratiquer, mais qui malheureusement, si l'âme suit cette passion, ça l'amènera à sa perte. فعلى المسلم مقاومة نفسه الأمارة بالسوء لتكون له مطيعة مطمئنة يسهل قيادها لتكون رغبتها في طاعة الله تعالى من الإيمان الكامل والإسلام الشامل والإحسان المقرن. Donc le musulman doit combattre son âme et faire face à son âme qui lui ordonne le mal, pour qu'elle lui soit obéissante et qu'elle lui soit apaisée, et pour qu'il lui soit facile de la guider et de la conduire, et pour que les inspirations de son âme soient dans l'obéissance d'Allah Azzawajal, et dans le fait d'avoir une foi complète et un islam complet, et l'ihsan, c'est-à-dire le degré de l'ihsan. وَأَمَّا الْأَدْوَى فَهِيَ الْأَسْقَامِ وَتَكُونُ لِلْأَبْدَانِ كَالْأَمْرَادِ الشَّنِيعَةِ مِنَ الْجَذَّامِ وَالسَّرَطَانِ وَذَاتِ الْجُنُوبِ وَذَاتِ الْجَنْبِ وتكون أسقام القلوب بالشهوات كالمعاصي والشبهات كالبدع نسأل الله السلامة. Quant aux maladies, ça peut être les maladies du corps, comme il a cité par exemple le cancer, c'est-à-dire les maladies du corps, ou les maladies du cœur, comme les doutes et الشبهات, les faux arguments et les innovations. Donc on s'arrête là, inshallah. Et donc le prochain, c'est à 18h30 pour ce cours-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك.